Monsieur Delon.
Delon par Delon.
C'est un accident, ce que je suis. Et puis d'un seul coup, on vous met une étiquette et vous êtes Delon.
C'est mon idole.
Et par Laurent Delmas.
Qu'est-ce que vous vouliez dire sur Alain Delon ?
Il est fascinant et formidable. On ne peut pas inventer ce qu'il fait. On l'a dedans et on le sort ou on ne le sort pas.
Je suis un acteur qui essaie de transposer, de ramener les personnages à mon moi personnel.
César a tout réussi, tout conquis.
Je t'inquiète pas.
Bonjour mon oncle.
Tancred.
Un samouraï. Il ne doit rien à personne. Ni au Roku, ni à ses frères.
Nadia !
Nadia, arrête-toi !
Non, on laisse-moi !
Ni au clan des Siciliens.
D'accord. Mais je vous préviens que moi, on me vire pas d'une affaire.
As-tu entendu parler de la tulipe noire ?
La tulipe noire ?
Ah, c'est moi.
Non.
Eh oui.
Allô, Robert Klein ?
Allô, qui est à l'appareil ?
Robert Klein.
Molto bravo. Arrivati là, ti do un bacio.
J'étais, entre guillemets, une vedette italienne avant d'être une vedette française.
Vous parlez. Vous ne pensez qu'à vous.
Il restera quoi dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans de Monsieur X ou de Madame Y dans l'histoire du cinéma français ou mondain ? Rien. Moi, je resterai.
Avez-moi.
Et avez Laurent Delmas.
Épisode 3. Viva Italia. C'est entendu. Le premier maître de cinéma dont Alain Delon se réclame dès ses premiers films, c'est René Clément, avec notamment Plein Soleil. Oui, mais dans le même temps, presque un autre cinéaste devient également le Pygmalion de l'acteur naissant. Et c'est Luchino Visconti, avec Rocco et ses frères. Viendront ensuite d'autres cinéastes et d'autres films italiens. Delon, ce fut peut-être l'acteur français le plus transalpin de son époque, et c'est cette histoire-là que nous allons vous raconter. Andiamo. Pour commencer, on découvre qu'il eut un avant-Visconti dans cette épopée italienne. C'est Alain Delon, au micro de Selim Sasson de la RTBF en 1980, qui nous le raconte.
Lors d'un passage comme ça en dilettante au Festival de Cannes, j'ai été remarqué par ce qu'on appelle un talent scout américain. Un talent scout, ça, la traduction voudrait dire, si vous voulez, dénicheur de vedettes. Et c'est un métier aux États-Unis. Il y a des gens qui sont là, qui cherchent dans la rue, qui regardent, qui vont dans les cours, qui vont dans les endroits de jeunes et qui cherchent vraiment, lorsque je dis des vedettes, disons qu'a priori, ils cherchent, disons, des physiques au départ. Et il m'a dit, je souhaiterais vous faire faire des essais parce que votre physique m'intéresse. Et on m'a fait faire des essais. Les essais ont été concluants. On m'a envoyé à Paris prendre des cours d'anglais. Et très peu de temps après, on m'a dit, maintenant, si vous voulez, on va vous signer un contrat de 7 ans. Et entre-temps, j'avais rencontré, tout à fait par hasard, un metteur en scène français qui s'appelle Yves Allégret. Et qui avait souhaité me faire débuter dans un de ses films qui s'appelle « Quand la femme s'en mêle », qui a été mon premier film d'ailleurs. Et qui m'a convaincu très vite d'oublier les Américains, de ne pas signer ce contrat de 7 ans et de rester bien chez nous et de rester français. J'ai suivi ses conseils et c'est comme ça que je ne suis jamais parti aux États-Unis.
Assez rapidement, c'est le cinéma italien aussi qui s'est tourné vers vous.
Oui, c'est pas le cinéma italien qui s'est tourné vers moi. C'est vraiment que ma vraie carrière a débuté et commencé en Italie. C'est-à-dire que la même année, j'ai tourné en Italie, Plein Soleil, Rocco et ses frères, et Quelle joie de vivre. Et L'éclipse, l'année d'après. C'est-à-dire que pratiquement la même année, j'ai tourné avec Visconti, avec Clément et avec Antonioni. Et ça, si vous voulez, c'est ce que je considère, ce que j'ai toujours considéré vraiment comme la base essentielle de ma carrière. Et vous savez, j'ai toujours tiré un parallèle entre une carrière cinématographique et un édifice, la construction d'un édifice. Je veux dire, si l'édifice n'a pas ses bases solides, au bout d'un certain temps, il va trembler sur ses fondations, il va s'écrouler. Je veux dire, une carrière, je crois que c'est exactement la même chose. Pour rester, pour durer, il faut des bases. Disons que mes bases, à moi, je les ai acquises en Italie. Et que ma vraie carrière a débuté en Italie, avec Visconti, avec Clément, avec Antonioni, avec quelques autres.
Entre des personnages comme Visconti et Antonioni, il doit y avoir une des différences fondamentales. Ils sont italiens, c'est leur seul commun dénominateur.
Oui. Oui, c'est-à-dire que Visconti, parce que Luchino est quand même la personne qui m'a le plus apporté professionnellement, je dirais, était un être tellement exceptionnel et tellement universel que c'était un maître à penser à tous les niveaux et à tous les égards. Antonioni avait de grandes qualités, mais c'était essentiellement, si vous voulez, un homme de cinéma et un réalisateur de cinéma, alors que Luchino était beaucoup plus ample. Luchino, c'était le cinéma, c'était le théâtre, c'était l'opéra, c'était... C'était la grande aristocratie. Mmh. Ça se sentait, c'était présent constamment, je veux dire, c'était... Et puis c'était surtout dans son travail, dans ses réalisations, ça transpire à l'écran. Quand vous allez voir Le Guépard, je veux dire, on en est plein.
Tout a donc commencé à la toute fin des années 50, mais ce tropisme italien se poursuivra durant plus de 30 ans, jusqu'au milieu des années 90. Certes, avec un film très mineur de Jacques Deray, L'ours en peluche, mais qui sera bien l'ultime coproduction franco-italienne d'un film avec Delon.
Tu te souviens du film avec Audrey Hepburn ?
Je vais jamais au cinéma.
Ben moi, j'adore y aller. J'ai besoin de rêver.
Les scénaristes en sont italiens et c'est l'actrice Francesca Dell'Era qui donne la réplique à Delon. Quoi qu'il en soit, Visconti est bel et bien le parrain de ce parcours, comme Delon lui-même l'a souligné.
C'est vrai que ma carrière, je dirais, est née entre 59 et 63 à Rome. Moi, j'ai des souvenirs très précis qui m'ont bouleversé d'ailleurs. Les Italiens dans la rue m'appelaient Rocco. Je parlais l'italien, je le parle encore un peu moins bien, couramment, totalement, à la perfection. Et je suis devenu, il faut quand même le préciser, j'étais une, entre guillemets, une vedette italienne avant d'être une vedette française. Avec ces films-là. Plus Quelle joie de vivre aussi, qu'on a tourné avec Clément. Et pourquoi Antonioni ? Ben Antonioni, sûrement peut-être parce que Visconti. Parce que, bon, quand on s'appelle Antonioni et qu'on voit Visconti, bon. Il y avait d'autres éléments extérieurs qui arrivaient. Antonioni était à l'époque, vivait avec Monica Vitti, il voulait en faire la plus grande vedette italienne. Bon, il y avait cette rivalité avec, bon, il y avait la Lorraine, la Vitti, la Brigida, donc il fallait. Bon. Et puis voilà, et puis moi j'étais là. Bon, mais pourquoi moi ? Je ne sais pas, mais. N'oubliez pas qu'on était en pleine nouvelle vague à Paris. Et bien moi, sûr. J'étais là-bas.
Et oui, et vous faisiez la nouvelle vague italienne, peut-on dire, Antonioni ?
Non, c'était pas la nouvelle vague, parce que pour les metteurs en scène français de la nouvelle vague plus tard, j'étais à l'époque ce qu'ils représentaient, le cinéma de papa, je veux dire. C'est pour ça que j'ai eu ces non-rapports avec la nouvelle vague. Je n'ai jamais tourné, moi, de ma vie, avec un metteur en scène dit de la nouvelle vague.
Parce que si, Jean-Luc Godard. Non,
mais attendez, attendez.
Ça, oui, ça, quelques années après. Oui, quelques années après.
Pas à l'époque de la nouvelle vague.
Toujours au micro d'André Asseo sur France Inter pour l'émission Les Étoiles du Cinéma, Delon évoque son premier contact avec l'Italie et Visconti.
J'avais reçu sur le tournage de Christine...
Oui, Pierre Gaspard VIII.
Gaspard VIII, j'avais reçu par Olga Horstig la visite de Visconti. Edwige Feuillère avait appelé Olga Horstig, qui m'avait pris sous contrat avec elle. Olga Horstig, qui était à l'époque le correspondant de Kaufmann & Lerner à Rome, s'occupait aussi de Visconti, de Paolo Stoppa, de Rina Morelli et de beaucoup de gens de cette qualité, de ce niveau. Et c'est Olga qui, la première, avait parlé de moi à Lucchino, dont elle savait qu'il était en train de préparer Rocco et ses frères, etc. Donc sur le plateau de Christine, Visconti était venu me voir. C'est simplement pour vous préciser qu'avant Plein Soleil, il y avait déjà cette accroche viscontienne.
Rocco, tiens.
Le premier film avec Visconti, ce sera donc Rocco et ses frères, sorti en 1960. Laissons à Delon le soin de nous présenter le film devant la caméra de François Chalet, au sortir d'une séance d'entraînement dans une salle de boxe.
Alain Delon, nous sommes contents de vous voir et surtout de vous voir là parce que vous avez la réputation de ne pas avoir une vie très bien réglée. Je crois que pour faire ce que vous faites, ou on vous a calomnié ou vous avez beaucoup changé.
Je crois que j'ai beaucoup changé. On m'a forcé à me changer.
Oui. Vous faites cet entraînement de boxe pas uniquement pour perfectionner vos muscles, c'est parce que quand même le cinéma est derrière.
Ben, le cinéma est dernier, mais je suis très content aussi de pouvoir percer sur mes muscles.
Oui.
C'est un film justement où j'ai le rôle d'un boxeur dedans.
Oui.
Et je me suis dit pour vraiment, parce que comme j'ai une, je crois, cette conscience professionnelle, amener les choses jusqu'au bout, j'ai dit si vraiment je veux avoir l'air d'un vrai boxeur, il faut que je m'entraîne et que je suive l'entraînement d'un vrai boxeur. C'est pour ça tous les matins je suis là, 2 heures, 3 heures.
Ah,
je vois plus, je ne fume plus, rien du tout.
Non mais dis petit mec, où est-ce que tu te crois ici? Regardez-moi ces cutéreux. Ça veut faire de la boxe et ça s'amène avec la cigarette.
Depuis, le film de Visconti est devenu un classique. Et le rôle de Rocco, un marqueur essentiel dans la carrière de l'acteur.
Mesdames et messieurs, est déclaré vainqueur par KO à la 3e reprise, Rocco Barondi.
Et c'est ainsi qu'il devient une star et que sa carrière s'internationalise. Avec à ses côtés sa compatriote Annie Girardot, qui joue Nadia, une prostituée dont Rocco et son frère Simone sont tous deux amoureux. en VF, dialogue de rupture entre Rocco et Nadia.
Je ne savais pas, moi, que Simone t'aimait à ce point-là. Je savais qu'il lui était arrivé quelque chose, qu'il avait changé. Lui qui était si bon.
Non.
Mais je n'avais pas compris que la cause de ce changement, c'était toi.
C'est pas vrai.
Seul un être poussé par le désespoir peut agir comme il l'a fait cette nuit-là.
Non, seul un être vulgaire et cruel comme lui. Moi, je t'aime, Rocco. Tu me crois? Rocco, je t'en supplie. Alors tout ça, c'est inutile. C'est pas la peine. Moi, je crois plus en rien. Écoute, Rocco, je t'en supplie. Si tu continues comme ça, je me jette dans le vide. Moi, je me tue, tu comprends?
Nadia!
Non!
Nadia, écoute! Nadia, arrête-toi! Nadia!
Non! Non, Rocco, laisse-moi! Non.
Nadia, écoute.
Non, laisse-moi. Je vais mourir. Tu es venu vers moi. Tu m'as démontré que la vie que je menais était monstrueuse. Je me suis mise à t'aimer. Et brusquement, à cause de la lâcheté d'un misérable, il m'a humilié devant toi, qui a voulu te ramener à sa médiocrité, et alors, brusquement... Plus rien n'existe. Ce qui hier était sain et juste, aujourd'hui devient une faute.
Nous sommes coupables tous les deux, Nadia. Mais moi plus que toi. Il faut que tu reviennes à Simone.
Qu'est-ce que tu dis?
Simone a besoin de toi. Il n'a plus que toi.
Oui, Simone a besoin de moi, oui. Oui, ça je le sais. Tu es content? Mais moi je suis là, j'existe. Dis, Rocco! Alors comment tu résous le problème?
Je crois que toi seule peux sauver Simone.
Ah, il est fou, fou.
Nous avons cru pouvoir recommencer ensemble une vie nouvelle. Mais nous n'avons pas pensé au mal que nous pouvions faire aux autres.
Si j'avais envie d'entendre un sermon, je descendrais dans l'église. Je t'aime, Rocco, je t'aime. Et toi aussi, tu m'aimes. Alors dis, qu'est-ce qu'on va faire de tout cet amour? Dis, pourquoi tu me tourmentes ainsi?
Nous ne devons plus nous revoir, Nadia.
C'est pas possible. Dis, mais Rocco, c'est pas possible. Rocco, c'est ça que tu veux? Tu t'en repentiras. Tu t'en repentiras, mais il sera trop tard. Je te hais, je te hais, je te hais, je te hais.
À ce stade, un mot pour préciser quand même que si Delon parlait couramment italien,
Simone a besoin de te, non tiene che te.
Ce n'est jamais sa voix, hélas, que l'on entend dans les versions originales de ces films italiens. Comme l'évoque le cinéaste Nicolas Pariser à notre micro, avant de retrouver la vraie voix de Delon dans un monologue du film de Visconti.
On entend quelqu'un, oui, on entend un acteur qui n'est pas Delon, c'est vrai. Mais ça, c'est quelque chose qui est... Il y a Godard qui en parle dans ses histoires du cinéma et dit comment se fait-il que le cinéma italien était si beau alors qu'on n'entendait pas la voix des acteurs. Et il a une thèse qui est très godardienne, c'est que la langue italienne était directement injectée dans les images. C'est vrai que c'est quelque chose de très très insensé, c'est-à-dire que aujourd'hui on pourrait pas prendre un acteur américain ou italien, le faire doubler en français. Enfin, il y a quelque chose qui est impensable aujourd'hui, alors que, après tout, pourquoi pas? Et c'est vrai que le cinéma italien, il y a plein de films italiens où Bernard Blier, Philippe Noiret, Alain Delon, Jean-Louis Trintignant jouent le rôle d'italien, et on se pose absolument pas la question, et c'est pas leur voix, et c'est pas grave. Et sans parler, évidemment, des Western Spaghetti, où ils ont tous des noms américains, et ils parlent en italien, et où Clint Eastwood parle en italien, mais c'est pas lui qui parle, alors qu'il devrait parler en anglais, alors qu'il... Voilà. Donc, la question, effectivement, de la langue dans le cinéma italien, elle est insoluble, mais elle est excitante.
J'ai l'impression que quelqu'un a sonné à la porte.
Non, maman, il n'y a personne.
Personne.
alors que je me fais. Ouais, allez, c'est ça, voilà. Allez, allez, Rocco, montre-nous que t'es le meilleur.
Non, Ciro, sûrement pas. Je pensais à autre chose. Oui, voilà ce que je voulais dire. C'est qu'un jour viendra, qui n'est pas proche sans doute, où je me retournerai au pays. Et si ce n'est pas moi, si cela ne m'est pas possible à moi, peut-être qu'un autre parmi nous voudra y retourner. Peut-être toi, Luca.
Avec toi, j'aimerais y retourner.
Rappelle-toi, Luca, que notre pays est le pays des olives, du mal de lune, le pays des arcs-en-ciel.
Cette fois-ci, c'est la sonnette.
Poursuivons notre voyage dans l'Italie d'Alain Delon avec le second film qu'il tourna sous la direction de Visconti 2 ans après Rocco et ses frères, soit Le Guépard. D'après le roman de Giuseppe Lampedusa, le récit d'un moment clé de l'histoire de l'Italie au XIXe siècle.
Mimi.
L'acteur y incarne Tancred, le jeune neveu du prince de Salina en Sicile et qui s'engage aux côtés de Garibaldi, tandis que son oncle résiste à l'air du temps à travers la maxime qu'il affectionne « Il faut que tout change pour que tout se conserve ». On écoute un échange entre Tancred et son oncle, joué par Burt Lancaster, en notant que les dialogues de la version française ont été spécialement écrits par le romancier René Barjavel.
Pourquoi es-tu habillé ainsi? Qu'est-ce qui t'arrive? Un bal costumé de bon matin?
Je m'en vais, mon oncle. Je pars dans une heure. Je suis venu te dire adieu.
Adieu? Pourquoi? Pas un duel?
Si. Le plus grand des duels, un duel avec le roi de Naples, avec François le Petit. Je pars dans la montagne, Ficuzza. De grandes choses se préparent et je n'ai pas envie de rester les bras croisés à la maison.
Tu es fou de te mettre avec ces gens-là. Ce sont des bandits. Tous de la Canaille. Un falconnerie doit être avec nous. Pour le roi.
Pour le roi, d'accord. Mais quel roi? Est-ce que tu veux me le dire? Crois-moi, mon petit oncle. Si nous ne nous mêlons pas de cette affaire, ils vont nous fabriquer la République en 2 temps, 3 mouvements. Si nous voulons que tout reste pareil, il faut que nous changions tout. J'espère que tu me comprends. Adieu, mon oncle.
Adieu.
C'est à nouveau au micro de François Chalais que Delon, l'année même de la sortie du Guépard, revient sur sa collaboration avec Visconti.
Vous venez de vivre une expérience assez instructive. Vous venez de passer un week-end prolongé avec Luchino Visconti, pour un film qui s'appelle Le Guépard.
Oui.
Un week-end qui a duré combien de temps?
Ça a duré exactement 6 mois.
Vous saviez que vous partiez pour 6 mois lorsque vous avez signé pour Le Guépard?
Ben, je vais vous dire, quand on signe pour Le Guépard et quand on signe avec Visconti, peu importe si on part pour 6 mois ou pour 1 an, c'est ça, on n'y pense même pas. On peut partir pour... Ça n'a aucune importance.
Est-ce que vous savez d'avance, quand vous entrez dans un film, si le film va être bon ou mauvais? Est-ce que vous le sentez à l'ambiance? Est-ce que vous vous dites, tiens, je sens que je suis sur, parlez vulgairement, sur un bon coup ou pas?
Ben, au départ, ça, j'y pense après. La première chose que je pense, pour revenir toujours au metteur en scène, je m'excuse, c'est que lorsqu'un metteur en scène comme Visconti me fait, je dis l'honneur de me choisir pour un personnage, c'est que lui y a pensé avant moi, c'est que lui est sûr que je suis son personnage. Donc c'est un problème déjà dont je suis dégagé. Après, moi, j'essaie de rentrer en contact avec mon personnage, j'essaie de voir ce que je peux faire, j'essaie de voir si vraiment j'arriverai à coller avec. Mais déjà au départ, je suis tranquille sur le fait que j'ai été choisi pour ça.
Vous avez déjà confiance en vous parce que vous savez qu'on vous aime.
J'ai déjà confiance en moi du fait qu'on me fait confiance. J'ai oui. besoin qu'on me fasse confiance, j'ai besoin de me sentir mes responsabilités.
Comment est Visconti? Parce que c'est un personnage assez fabuleux, assez légendaire, justement, on ne s'en rend pas bien compte. Est-ce qu'il considère un acteur comme un objet, comme un être humain, comme les deux?
Ça, c'est ce qu'il dit, mais dans le fond, c'est un homme qui a beaucoup de sensibilité, beaucoup de cœur, et il a beaucoup de respect pour l'acteur. Oui. C'est un être extraordinaire, c'est quelqu'un, un personnage merveilleux, et c'est un très grand metteur en scène. Je ne veux pas dire qu'on a besoin d'être inhumain avec moi, mais ce que j'aime avec moi, c'est qu'on soit très dur, Parce que il faut surtout pas me laisser aller. Et je dois dire que j'ai eu la chance avec des hommes comme René ou comme Visconti, c'est que c'est des gens qui ne vous laissent jamais aller. C'est-à-dire qu'ils ne vous laissent pas faire ce que vous voulez, qui, se servant de votre personnalité, vous dictent ce qu'il faut faire. Et ça, j'ai besoin qu'on me tienne, j'ai besoin, je sais pas, c'est comme, pas me comparer à un pur sang ou à un cheval de course, mais c'est la même chose. Quand vous êtes sur un cheval, vous, c'est vous qui devez commander, c'est pas lui.
Revenons dans cette Italie des années 60 qui a fait de Delon une star à part entière. Entre Rocco et Le Guépard, il eut un autre film italien et non des moindres, L'Eclipse.
Bel colpo! Hai visto? Hai visto che brava?
Molto brava.
De Michelangelo Antonioni, autre grande figure du cinéma transalpin de l'époque. Delon y incarne Pierrot.
Non andare subito a casa.
Dans les bras duquel se précipite Vittoria.
Io vado.
Une jeune femme que joue Monica Vitti.
Arrivati là, ti do un bacio.
Mais avec ce personnage, Delon quitte ses seuls habits de séducteur tranquille pour incarner un être calculateur et pressé. Tu bouges tout le temps, lui dit ainsi Vittoria. Pourquoi devrais-je rester immobile ? Lui répond alors Pierrot dans une phrase que ne renierait pas Delon lui-même. Durant les années qui suivent, Delon, sans retrouver pour autant Visconti ou Antonioni, tourne régulièrement dans des coproductions franco-italiennes comme L'assassinat de Trotsky, de Joseph Losey, Soleil rouge, de Terence Young, Adieu l'ami, de Jean Herman, ou bien encore Histoire extraordinaire, où pour l'unique fois de sa carrière, il donne la réplique à Brigitte Bardot sous la direction de Louis Malle.
Méfie-toi, Tonine. Ce cher Wilson n'est sûrement pas l'amant dont tu rêves. Ce sont les hommes qui ont fait sa réputation. Pas nous. Il aime la parade, le théâtre, les accessoires. Il a besoin d'un public. Mais dans le tête-à-tête, il tient mal son rôle.
Tu l'as connu ?
Non. Et je n'y tiens pas. Je n'aime pas perdre mon temps.
C'est moi dont vous parlez ?
Vous. Vous. On croirait qu'il n'y a que vous sur Terre, Wilson.
Vous me narguez.
Vous me menacez ?
En tout cas, je vous provoque.
En fait, il faut attendre 1972 pour que Delon tourne à nouveau sous la direction d'un cinéaste italien, en Italie, pour le film Le Professeur de Valerio Zurlini. Comme nous le raconte Alain Delon sur France Culture, lors de la sortie du film en France.
Avant toute chose, c'est l'histoire d'un homme à la recherche de son passé. C'est l'histoire d'un solitaire, l'histoire d'une solitude. C'est aussi à l'intérieur de ça une très grande histoire d'amour. C'est cet homme qui rencontre l'amour, pas pour la première fois, mais pour la seconde fois, auprès d'une jeune adolescente. Ce qui évidemment amène un problème de rapport entre lui et son épouse. C'est l'histoire d'un couple aussi, puisqu'il y a lui et sa femme. Et c'est la déchirure entre ce couple par rapport à cette jeune adolescente. Et une histoire qui, évidemment, se conclut dramatiquement. Mais je ne vous en révélerai pas la fin, évidemment, la conclusion. C'est un être bon, c'est un être généreux. Sans vouloir faire un parallèle, si vous voulez, à mon sens, c'est ce qui m'a séduit dans l'histoire et dans le personnage, dans le caractère. C'est un peu une sorte de prolongement de Rocco et ses frères. C'est presque Rocco, 10 ans plus tard. Je pense que Rocco aurait pu devenir ce professeur.
Alors, je ne pense pas que ce soit le meilleur film avec Alain Delon.
Le réalisateur Nicolas Parisère.
Mais c'est probablement son film le plus emblématique. Je crois que c'était son rôle préféré. C'est peut-être le film, disons, qui met le plus en évidence ce dont parle son art. C'est-à-dire que de quoi parle Alain Delon en général, et ben c'est dans Le Professeur que ça se voit le plus, que c'est le plus aigu, le plus intense, le plus à vif. Et effectivement, c'est un film italien. Et alors, je crois que c'était un film qui, au départ, était écrit pour Mastroianni. Mais Mastroianni était en perte de vitesse, donc il n'y avait pas suffisamment d'argent qui pouvait aller sur le film, sur le nom de Mastroianni. Donc, c'est Delon qui a récupéré le film, et Delon avait, le talent de voir le génie, je pense, de voir ce qui, dans un projet qu'il n'avait pas écrit, qu'il n'avait pas même suscité, ce qui pouvait... Enfin, quel était l'espace dans lequel il pouvait s'exprimer. Et effectivement, Le Professeur, c'est un de ses plus beaux films.
Encore triste ?
Non. Un peu déçue. Toute la journée, je me suis dit que vous étiez différent des autres. Quand on a pris cette rue, je me suis fait un pari contre moi-même. Mais je ne demandais qu'à le perdre. Tu verras, je me suis dit. Il va s'arrêter exactement à l'endroit où il n'y a pas de réverbère.
Je savais que tu serais seule ce matin. Je t'ai guetté et je t'ai suivi.
Comment saviez-vous qu'il ne serait pas là ?
Des amis me l'ont dit.
Lesquels ?
Spider, Ivo et Marcello.
C'est parfait. J'imagine bien ce qu'ils ont pu dire sur moi.
Pas un mot. Je n'étais pas couru après pour passer une gentille petite soirée. Ce genre de choses ne m'intéresse pas. Mais je t'ai senti si déprimé. J'ai vu dans tes yeux une telle mélancolie que je n'ai pas pu le supporter.
Vous ne savez rien de moi.
Je sais ce qu'il m'importe de savoir.
À l'exact opposé de l'intense mélancolie qui fait toute la beauté et la profondeur du film de Giorlini, et du coup l'un des plus grands rôles de cette veine italienne, décidément féconde, on trouve l'année suivante Big Guns, un tout autre film italien dont nous parle ici Nicolas Parisère. Non sans en avoir entendu auparavant un extrait en VF, dans une scène dont le climat relativement apaisé tranche très nettement avec le reste du film.
Gasmondo ne pouvait pas rester dans sa cage. Il était heureux sur son perchoir, avec plein de graines. Il aurait dû savoir que j'avais un bon chasseur pour le descendre.
Son chasseur commence à n'avoir assez descendre les pigeons. Plus envie de plaisanter, Nick. Il faut qu'on parle, tous les deux.
Bon. D'accord, viens dans mon bureau.
Mundo a été le dernier, Nick.
Oh. Comment ça, le dernier ? Qu'est-ce qui te prend ? Tu as peur, tout d'un coup ?
Non.
Alors, où est le problème ?
Je veux raccrocher. Un jour ou l'autre, j'avais bloqué une balle. Et alors, mon gosse voudra faire payer ça pour me venger. Et je n'ai pas envie qu'il ait le même genre de vie. Ni le même genre de mort.
Pourquoi ? Ça se passe comme ça chez nous. On n'y changera rien.
Moi, je vais changer ça. Je veux que Carlo ait une chance de mener une vie décente, tu vois.
Écoute, on ne lâche pas en route dans notre partie. Où tu restes, où tu te retrouves sous terre. Réfléchis, Tony, tout ce que tu sais, tout ce que tu as fait avec nous. Tu as toujours été en prise directe avec le sommet. Tu es au courant de tout. Des hommes, des plans, des affaires.
C'est une fausse raison, Nick. Ne raconte pas ça, toi et moi, on se connaît trop bien.
Tony... Écoute, Tony, réfléchis un peu plus à tout ça.
Quand on se décide pour de bon, ça doit être pour de bon. C'est toi qui me l'as enseigné.
Très bien. J'en parlerai la semaine prochaine à Paris. Mais je ne crois pas que les autres vont accepter de marcher.
Si tu expliques comme il faut, ils vont marcher.
Big Guns, Tony Arzenta en version originale.
Nicolas Parisère.
C'est ce qu'on appelle un poliziotesco. Donc c'est un film, un polar italien extrêmement violent, un peu putassier.
Une histoire de vengeance.
Une histoire de vengeance, c'est un genre... En gros, c'est le genre italien qui a remplacé le western spaghetti et qui a surfé un peu sur le succès du Parrain et de French Connection. Et je pense que Delon, donc... à l'époque où il est déjà une star de films policiers français, décide de faire un peu la même chose en Italie, mais sur le mode italien, c'est-à-dire en beaucoup plus violent, en beaucoup plus noir. Et donc, il fait ce film qui s'appelle Big Guns et qui est peut-être le meilleur, ou en tout cas un des tout meilleurs poliziotesco, et qui est un des meilleurs polars européens des années 70. Moi, j'aime beaucoup Melville. Je le place peut-être un petit peu moins haut que certains autres cinéphiles, mais j'aime beaucoup Melville. Mais c'est un film qui n'est pas un film d'auteur, c'est pas un film aussi ambitieux qu'un Melville, mais enfin, c'est un film qui est tout aussi estimable, je dirais, que Le Samouraï, par exemple, puisque c'est aussi un film où DeLonge joue le rôle d'un tueur à gages. Donc, aussi bien sur le plan du cinéma d'auteur dans Le Professeur que sur le plan du cinéma très commercial, Big Guns, c'est plus que du cinéma commercial. C'est vraiment du cinéma putassier. C'est-à-dire, il y a des femmes nues, il y a des enfants qui meurent, il y a une scène.
Une violence très crue,
des méchants qui se font décapiter. Enfin, c'est quelque chose qui est rigoureusement impossible dans le cinéma français ou même dans le cinéma américain de l'époque. C'est presque ce qu'on appelle du cinéma d'exploitation. Et ben, même dans ce cinéma-là, à un moment donné, DeLonge a une présence dans le cinéma italien. Et je pense que dans les années 70, si on demande aux Italiens quels sont leurs grande star préférée, ils vont effectivement dire, alors peut-être Alberto Sordi pour les comiques, mais dans les acteurs, disons, dramatiques, je pense qu'ils mettront DeLonge au même titre que Gassman, ou des gens comme ça, ou que Mastroianni, avec en plus, je crois qu'il y avait la réputation, en Italie, qui est d'ailleurs un peu incompréhensible, était que les acteurs français étaient meilleurs que les acteurs italiens, et qu'il valait mieux engager un acteur français qu'un acteur italien, ce qui, avec le recul, paraît presque insensé. D'ailleurs, il y a beaucoup d'acteurs français qui ont fait des grandes carrières en Italie, que ce soit Noiret, Blier, etc. Mais en l'occurrence, oui, le destin cinématographique de DeLonge, dans ces grandes années, c'est-à-dire en gros entre 1960 et, on va être sympa, 1980, s'inscrit vraiment à cheval sur les deux pays, sachant que le cinéma italien, dans ces 20 années-là, est un cinéma beaucoup plus puissant que le cinéma français.
Maintenant, arrêtez les vrais criminels, ces juges vendus, tous ces faux témoins, et ce bourreau qui n'est qu'un assassin.
Notons que c'est ce même cinéaste italien, Duccio Tessari, qui, deux ans plus tard, en 1974, dirige DeLonge dans une assez improbable version de Zorro, qui lui permet cependant d'ajouter un nouveau personnage à deux têtes dans sa galerie personnelle, puisqu'il incarne à la fois Don Diego et Zorro, comme il se doit.
Oh, c'est le signe de Zorro. Zorro.
Zorro.
Zorro.
Rentrez chez vous, mon frère, et que les enfants restent ici. La loi est juste, il faut qu'ils l'apprennent. Je les condamne à recevoir trois fois le nombre de coups de fouet qu'ils voulaient infliger aux moines. Allez-y !
Il est bientôt temps de refermer la très singulière page de la carrière italienne de DeLonge. Lui qui, on ne l'avait pas encore évoqué,
regarde qui est là.
Incarna en 1992, sous la direction d'Edouard Niermans et aux côtés de Fabrice Luchini, tout simplement l'un des grands personnages de la culture italienne,
Monsieur Casanova.
Giacomo Casanova, dans le film intitulé « Le retour de Casanova ».
Monsieur.
Mademoiselle.
Dis-moi une chose, Camille. Tu trouves que j'ai vieilli ? Sois franc.
Tout le monde vieillit, monsieur, à part le diable. Et on peut trembler des mains et rester ferme de la quille.
Ah, oh, Camille.
Trois de nos grands témoins ont souhaité donner leur point de vue sur cet épisode italien indissociable de l'ensemble de la carrière de DeLonge, comme l'a bien montré l'émotion qui a saisi l'Italie à l'annonce de son décès en août 2024. L'écrivain Jean-Marc Parisi insiste précisément sur l'image que les Italiens se font de l'acteur DeLonge. Rappelons qu'il est l'auteur d'une remarquable biographie personnelle intitulée « Un problème avec la beauté, DeLonge dans les yeux », désormais disponible au livre de poche.
Les Italiens le voyaient autrement. D'abord, ils le voyaient comme quelqu'un de plus léger que ce qu'on pouvait voir DeLonge en France. En fait. Et puis, je vais vous dire, les Italiens n'ont pas le même rapport névrotique à la beauté que les Français. Vous voyez ce que je veux dire ? L'Italie, c'est quand même le pays de la beauté. Donc d'une certaine façon, que Delon soit Delon, ça les gêne moins que nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça les gêne moins que nous. Et puis, à part avec Melville, mais sinon c'est l'Italie qui lui a offert ses plus beaux films. Enfin, en tout cas, c'est les Italiens qui lui ont offert ses plus beaux films. Clément aussi, mais voilà. Et puis,
mais Clément, on le rappelle avec deux films qui se passent en Italie.
Qui se passent en Italie.
C'est certainement pas un hasard.
Enfin, non, pas du tout. C'est pas un hasard. Ouais. Et je pense qu'il y avait... Delon a toujours voulu échapper au cadre et je pense qu'il se montrait, d'ailleurs on le voit dans certaines images, il se montrait tout à fait différent avec les Italiens. Voilà. En Italie, Delon était solaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. En France, il l'était pas. Je peux vous dire que j'ai encore revu récemment Plein Soleil. Mais je veux dire, on a véritablement la beauté de Delon dans Plein Soleil. C'est transcendant. Mmh. Et c'est pas un truc d'énamouré, c'est pas un truc de fan, c'est pas un truc de groupie.
Clélia Zernik, professeure de philosophie, insiste à son tour sur la particularité du rapport de Delon avec l'Italie, en se plaçant notamment du point de vue de la beauté et de l'esthétique.
Chez Antonioni, c'est une beauté un peu particulière, très froide. Et c'est le nouveau Rome qui s'impose ou qui s'expose. Mais chez Visconti, effectivement, c'est les beautés. Bon, dans Le Guépard, la beauté des paysages, c'est incroyable. Et lui-même, avec ses grands partenaires, fait tout à fait partie du paysage. Deleuze dit quelque chose de très beau sur Visconti. Il dit que chez Visconti, la beauté est la quatrième dimension. Et la quatrième dimension, c'est celle qui est là dans aucune des coordonnées géométriques, en fait. Elle est là, un peu à la manière d'un fantôme, elle hante. Et effectivement, je pense que chez Visconti, cette beauté qui est toujours un peu menacée de décadence, effectivement, elle reste un peu maintenue en suspens, elle donne une forme de beauté aristocratique à toute chose, effectivement. Et là, il a cette beauté aristocratique qui est menacée, mais qui peut perdurer parce que ce physique existe aussi, peut-être.
Enfin, retrouvons le cinéaste Nicolas Parisère, à qui l'on doit notamment le film Alice et le maire, et qui signa un article très éclairant dans les cahiers du cinéma après la mort de Delon. Pour lui, pas de doute, c'est en Italie que l'acteur a tourné parmi les plus beaux films de sa carrière.
Je pense que Alain Delon est intimement lié au cinéma italien. Et donc, si on ne comprend pas ce qu'est le cinéma italien, aussi bien d'un point de vue économique, thématique, enfin voilà, ce qu'a été le cinéma italien d'après-guerre, je pense qu'on a du mal à comprendre qui a été Alain Delon. Je pense qu'Alain Delon, en fait, appartient paradoxalement plus à l'histoire du cinéma italien qu'à l'histoire du cinéma français. Quand bien même il a fait évidemment beaucoup plus de films français que de cinéma italien. Mais il ne faut pas oublier que, disons, quand Alain Delon explose au début des années 60, sur les quatre films qui vont faire de lui une star, c'est-à-dire Rocco et ses frères, Plein Soleil, Le Guépard et L'Éclipse, il y a trois films italiens et il y a un film français, mais enfin qui se passe en Italie. Donc, c'est-à-dire que Plein Soleil, c'est un film français, je pense, avec des capitaux essentiellement français, quand bien même ça doit être une coproduction quand même. Mais enfin, c'est un film qui se passe essentiellement en Italie, et c'est presque un film italien. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe au début des années 60 avec l'apparition de Alain Delon comme star, qui est intimement lié au cinéma italien. Et c'est aussi pour ça, souvent, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que la Nouvelle Vague aurait raté Alain Delon. Ce qui est vrai, puisque le seul cinéaste de la Nouvelle Vague à avoir fait jouer Alain Delon, c'est Godard, et encore extrêmement tardivement en 1990. Pourquoi est-ce que Delon n'a pas joué chez Truffaut, Chabrol, bon, Romère et Rivette, on imagine mal, mais enfin, c'est quelqu'un qui aurait pu tourner tout à fait chez Chabrol dans les années 70 ou chez Truffaut. Il faut penser que Delon est une vedette du cinéma italien, et que le cinéma italien, c'est quelque chose de suffisamment puissant à l'époque pour qu'il suive son propre chemin et que la Nouvelle Vague est quelque chose qui est un peu à côté et qui est, Dieu sait que j'aime la Nouvelle Vague, enfin qui est un peu provincial par rapport à ce qui s'est passé dans le cinéma italien dans les années 60 et même 70. On se demande pas pourquoi est-ce que Truffaut n'a pas tourné avec Mastroianni ou avec, je ne sais pas, Gassman ou avec Sophia Loren. Mais Delon, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que Delon, en tant que figure cinématographique, c'est quelqu'un qui vient du cinéma italien. Et d'ailleurs, il fera des très beaux films, peut-être même ses plus beaux films en Italie.
Retour en France dans le prochain épisode avec un autre mentor d'Alain Delon, bien différent des deux premiers que nous avons évoqués jusqu'à présent, René Clément et Luchino Visconti. Un immense cinéaste lui aussi, qui a en quelque sorte façonné une certaine silhouette de l'acteur Delon, au point d'en faire un samouraï glacé et glaçant et au destin tragique dans les rues de Paris. Oui, c'est bien avec Jean-Pierre Melville que nous continuerons de suivre le parcours de Delon.
Je crois que Delon est un homme qui se défend terriblement. Ouais. Il est sa propre forteresse. Il est enfermé à l'intérieur. Il ne se laisse pas grignoter. Il ne se laisse pas approcher. Non, c'est un animal très sauvage. Ce qui fait aussi beaucoup de ses qualités.
Delon par Delon est un podcast original de France Inter, proposé par Laurent Delmas et mis en onde par la guépard Audrey Ripouille, avec l'aide de la samouraï Karen Day, de la tulipe noire Laura Dumez, de la professeure Emmanuelle Fournier, de la gitane Emma Bouvier et du clan des Siciliens au mixage, Julien Thévenot, Vincent Godard et Nicolas Bonnet. Avec eux, avec nous, avec moi.